VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Henri Francisque.
Au sommaire, en ce vendredi 30 janvier 2015, à 2 semaines des élections au Nigeria, 25 millions de personnes attendent toujours leur carte d'électeur.
Ebola n'est pas le seul responsable de la crise économique en Guinée. Dixit Sellou d'Alain Diallo, ancien Premier ministre.
Il faut ici trouver l'explication dans la qualité des politiques qui ont été menées par le gouvernement d'Alpha Condé, qui a découragé les investisseurs et qui a empêché donc la mise en œuvre de beaucoup de projets importants dans le pays.
L'école publique en Centrafrique est en grève pour 8 jours.
30% de femmes élues au Bénin, c'est possible selon le Rifonga qui se fixe cet objectif pour les prochaines communales et municipales.
De plus en plus, les femmes, depuis les quartiers et les villages, militent et elles sont formées, elles sont intéressées désormais à la chose publique.
Véronique Fossou, membre du réseau pour l'intégration des femmes. Et avant le journal de la CAN, nous aurons les dossiers et la Minute Éco. Mais voici d'abord les infos.
Dans l'est de la RDC, offensive de l'armée contre les rebelles FDLR originaires du Rwanda. Le chef d'état-major des FRDC, le général Didier Ntumba, l'a annoncé hier à Beni, où il s'était entretenu peu avant avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler. Notre collègue Edouard Rouema, de la Voix de l'Amérique, a joint M. Kobler hier à Addis Abeba.
C'est une opération qui est menée par les FRDC, mais soutenue par la MONUSCO, opérationnellement et logistiquement. On fait combat aussi contre les ADF Nalu au nord du Nord Kivu et dans les autres opérations. C'est pourquoi nous avons déjà une routine de soutien logistique, de soutien opérationnel pour les combats qui sont menés par les FRDC. Notre combat est contre les combattants, pas contre leurs dépendants, pas contre la population civile Hutu, pas contre les réfugiés rwandais. Si nous combattons toujours les combattants, nous avons des moyens de renseignement et j'encourage aussi les FDLR de ne pas faire ça, ce qu'ils ont fait à 2009, à 2010 et causer des situations humanitaires.
Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler.
Lutte contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Les troupes tchadiennes auraient repris la localité de Maloum Fatori aux islamistes après une série de raids aériens dans la nuit de mercredi à jeudi. Un habitant près de la frontière au Niger a dit à la Voix de l'Amérique avoir été témoin des bombardements et avoir été informé par les troupes nigériennes de la reconquête de la ville. L'armée nigérienne tente d'empêcher les militants en fuite de franchir la frontière. L'armée du Nigeria a indiqué sur Twitter avoir effectué des opérations aériennes autour de Maloum Fatori au cours des deux derniers jours, ajoutant que les troupes tchadiennes étaient actives dans la région. Le Tchad et le Cameroun ont récemment déployé des forces pour lutter contre Boko Haram, qui contrôle une grande partie de l'état de Borno au Nigeria, y compris une base militaire multinationale clé sur les rives du lac Tchad.
Égypte, des militants islamistes présumés ont fait exploser une voiture piégée et ils ont tiré des roquettes sur des cibles policières et militaires dans la péninsule du Sinaï hier, tuant 25 personnes. Selon les autorités, les armes étaient destinées à une base militaire et un hôtel dans la ville d'Al-Arish où la police et les officiers militaires vivent. Le journal du gouvernement Al-Aram affirme que son bureau, juste en face de la base militaire, a été complètement détruit. Il n'a pas dit s'il y avait des blessés dans le bâtiment. Jeudi également, des militants présumés ont tué un officier supérieur de l'armée à un barrage militaire à Rafah.
En Centrafrique, les établissements scolaires publics primaires et secondaires sont paralysés par une grève de 8 jours. Félix Yepassi Zembro.
Les enseignants exigent le paiement d'au moins 3 mois d'arriérés de salaire. Ils avaient déjà mené une grève d'avertissement de 3 jours la semaine dernière. À Bangui, la plupart des élèves n'ont pu accéder à leur classe. Selon Blaise Mélé, l'un des responsables syndicaux, le gouvernement n'a pas encore trouvé de réponse à leurs revendications. Le pays est plongé dans une grave crise depuis plus de 2 ans. Seules les écoles de la capitale et des régions du sud-ouest avaient repris les cours. Dans le reste du pays, l'insécurité est telle que les écoles n'ont pas rouvert et de nombreux professeurs et instituteurs qui ont fui n'ont pas regagné leur poste. Au moins 5 personnes ont été tuées dans des affrontements dans la région de la Nana Gribizi, dans le centre-nord du pays. Cette région a été ces derniers mois le théâtre de violents affrontements entre ex-Séléka et anti-Balaka.
Au Burundi, le parti au pouvoir s'est dit prêt au compromis pour permettre la tenue d'élections apaisées. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Les législatives sont prévues en mai et la présidentielle en juin. Le CNDD-FDD est prêt à tout compromis pour calmer le jeu, a déclaré Onésime Ndouimana, porte-parole du parti au pouvoir. C'est la première fois que ce parti montre une ouverture au dialogue. L'opposant Agathon Rwasa, chef de l'ex-rébellion des FNL, répond que si le parti au pouvoir veut que les choses changent, qu'il crée un environnement favorable. À la mi-décembre, 18 partis d'opposition avaient exigé la démission de la commission électorale, accusée de fraude massive dans l'enregistrement des électeurs. Les tensions tournent autour de l'intention prêtée au président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Les opposants estiment que c'est contraire à la Constitution, ce que contestent les partisans du chef de l'État. Le pays a déjà connu une sanglante guerre civile. Les élections de 2010, boycottées par l'opposition, avaient débouché sur des violences.
Au Nigeria, la grippe aviaire de type H5N1 touche maintenant 11 États contre 7 la semaine dernière. Des dizaines de milliers de volailles sont mortes, mais pour le moment, aucun humain n'est contaminé. Jacques Aristide.
Akin Wumi Adesina, ministre de l'Agriculture, a déclaré que sur les 36 États de la Fédération nigériane, 11 ont signalé des foyers de grippe aviaire. Des cas ont été signalés dans les États de Kano, du Plateau, de Gombe, de Jigawa dans le nord. Dans le sud-ouest, les États de Lagos et d'Ogun sont touchés, tout comme ceux de Rivers, de Delta et d'Edo dans le sud. Plus de 230 000 oiseaux ont été contaminés, plus de 51 000 sont morts. Le dernier bilan publié le 21 janvier faisait état de 140 000 contaminations et 22 000 oiseaux morts. La souche H5N1 de la grippe aviaire a tué plus de 400 personnes dans le monde depuis son apparition en 2003 dans le sud-est asiatique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, le président Barack Obama va proposer lundi de mettre fin aux coupes budgétaires automatiques effectives depuis 2013, faute d'accord au Congrès sur la réduction du déficit. Monsieur Obama estime que ces coupes affectent l'économie et le secteur de la défense. Claire Morin-Gibault.
Les coupes budgétaires automatiques, que l'on appelle aussi sequestration, ont été mises en place en 2013 après l'échec des démocrates et républicains à trouver un accord pour réduire le déficit des États-Unis. Ces coupes visaient à réduire les dépenses d'un millier de milliards, soit un trillion de dollars d'ici à 2021, mais elles sont qualifiées d'arbitraires par leurs adversaires qui estiment qu'elles détruisent des emplois et sont préjudiciables à l'armée. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, le président américain veut en finir avec les crises fabriquées et l'austérité gratuite. Le projet de budget d'Obama sera publié lundi et devrait faire face à une opposition des républicains qui contrôlent désormais les deux chambres du Congrès. Toutefois, les républicains sont divisés sur ces coupes entre ceux qui veulent sabrer les dépenses et ceux qui soutiennent résolument l'armée. Le déficit budgétaire des États-Unis pour l'exercice 2014 a atteint son plus bas niveau en 6 ans.
Expiration du tout dernier ultimatum du groupe extrémiste État islamique qui exigeait la libération de la kamikaze irakienne Sajida al-Rishawi par la Jordanie hier, sous peine d'exécution du pilote jordanien fait prisonnier par les djihadistes en décembre. Amman exige maintenant la preuve que le pilote est encore en vie avant d'envisager une possible remise en liberté de la kamikaze.
3 civils américains tués à l'aéroport de Kaboul hier. Ils auraient été la cible d'une attaque de la part d'éléments militaires afghans. Les victimes travaillaient pour le Pentagone dans le cadre d'un programme de formation du personnel de l'armée de l'air afghane. Des soldats afghans ont déjà abattu des conseillers militaires américains auparavant. En août dernier, le général américain Harold Green a été tué par un militaire afghan.
À Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont prorogé de 6 mois hier les sanctions imposées par leur organisation contre des officiels russes et des séparatistes ukrainiens pour leur contribution au conflit dans l'est de l'Ukraine. Les diplomates européens ont aussi convenu d'ajouter de nouveaux noms à cette liste d'ici à une semaine. 2 décisions prises dans un contexte d'escalade notable des hostilités. De nouvelles discussions sur la paix en Ukraine doivent débuter aujourd'hui à Minsk.
Des négociations sur la dette de la Grèce débutent aujourd'hui à Athènes entre le nouveau gouvernement grec et l'Union européenne, indique l'AFP. Le patron de la zone euro, Jeroen Dijsselbloem, sera à la tête de la délégation européenne. Hier, le président du Parlement européen, Martin Schulz, premier responsable européen arrivé à Athènes depuis l'accession au pouvoir du premier ministre radical de gauche Alexis Tsipras, s'est voulu conciliant, mais il a souligné la nécessité de progresser rapidement dans les négociations. L'Union européenne refuse de renégocier la dette grecque, se disant toutefois prête à en alléger le fardeau.
Voilà pour les nouvelles. Maintenant, le journal de la CAN avec Nicolas Pineau.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. La Guinée accède au quart de finale grâce au cruel tirage au sort qui élimine le Mali. Le sourire à Conakry ce matin, mais la tristesse à Bamako. Terrible situation que d'avoir recours à un tirage au sort. Les deux équipes ont enchaîné 3 matchs nuls, 1 but partout depuis le début de la CAN. Le règlement était donc clair. La chance a souri au Sili National qui retrouvera le Ghana dimanche en quart de finale. Le Mali, lui, est inconsolable. Le président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra, a déclaré que quitter la CAN sur un tirage au sort constituait la pire des cruautés. Le tirage au sort pour départager les deux équipes n'avait plus été utilisé dans une Coupe d'Afrique depuis 1988. Retour sur ce mélodrame de Malabo dans le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. Fin de suspense dans le groupe D où un tirage au sort, heureux pour la Guinée mais injuste pour le Mali, complète enfin les combinaisons des quarts de finale. Les puristes auraient été plus satisfaits si la CAF avait daigné faire une entorse positive au règlement en préférant pour l'occasion l'épreuve des tirs au but que les dieux du foot semblaient lui proposer tout naturellement à la fin du match Mali-Guinée en toute éthique sportive. Nenni, les apparatchiks de la CAF ont récidivé. On se rappelle en effet qu'à Yaoundé en 1972, un des grands favoris de l'épreuve, le Maroc de Farah, fraîchement revenu d'un mondial mexicain satisfaisant, avait dû rentrer au bercail après 3 matchs nuls, une main innocente lui préférant le Congo. Le même scénario allait se reproduire au Maroc en 1988, cette fois au détriment de la Côte d'Ivoire et au profit de l'Algérie. Si la CAF tient mordicus à maintenir cette clause obsolète du règlement, elle se justifie par les contraintes techniques et économiques d'une compétition mondialisée et happée par le sport business. Mais certains rappellent aussi que le tirage au sort a déjà été utilisé dans des compétitions plus cotées de la FIFA, comme la Coupe du Monde de 1982 et surtout le Championnat d'Europe des Nations de 1964, où le champion en titre, l'URSS de Yachine, avait été écarté en demi-finale au profit de l'Espagne, pays organisateur, dans un contexte de forte suspicion. La CAF doit donc faire montre de plus d'imagination pour que la justice et l'éthique sportive soient saufs. À bientôt.
Les quarts de finale de cette 30e CAN sont désormais connus. Dimanche, Algérie-Côte d'Ivoire et Ghana-Guinée. Dès samedi, la Tunisie face à la Guinée équatoriale. Mais surtout, à Bata, Congo-République démocratique du Congo. Un choc entre les deux Congos décortiqué par Thierry Kambouni.
Les deux entraîneurs s'attendent à un match très compliqué. Jean-Florent Ibengue de la République démocratique du Congo explique les spécificités des Diables Rouges du Congo-Brazzaville.
Très compliqué. C'est une très bonne équipe qui s'appuie sur un bloc très travailleur derrière et au milieu de terrain. Ils récupèrent, ils courent, ils sont très généreux. Et puis deux attaquants, un qui est en super forme et qui va très vite. Et puis un autre qui sait tenir le ballon. Donc une équipe redoutable.
L'expérimenté Claude Leroy, l'homme en 8 Coupes d'Afrique des Nations de football, souligne lui surtout le bonheur de retrouver le Congo démocratique et Jean-Florent Ibengue, un entraîneur qu'il apprécie particulièrement.
Ça va être un match compliqué, mais on était très contents que ce match ait lieu. On se retrouve face à la RDC dans un match de foot génial, entre deux équipes qui se connaissent bien, avec des joueurs qui se respectent, et puis avec en face Florent Ibengue, qui est un entraîneur pour qui j'ai... Il le sait très bien, puisqu'il a toujours reçu des messages de ma part depuis que j'ai quitté la RDC, à chaque fois, ou pour V-Club, ou pour l'équipe nationale. Parce que j'aime bien la façon dont il travaille, il est intelligent, il est cohérent, donc c'est un bonheur. Véritablement, c'est pas du tout démagogique de rencontrer une équipe de gens qu'on aime bien. Quoi.
Cette confrontation congolo-congolaise en quart de finale s'annonce pour les moins très disputée. Bata, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En Guinée équatoriale, les défenseurs des droits humains demandent la libération de 3 personnes arrêtées pour avoir distribué des tracts critiquant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que la majeure partie de la population locale vit dans la pauvreté et n'a pas accès à l'eau potable. Amnesty International est parmi les 5 organisations qui ont interpellé les autorités équato-guinéennes à ce sujet. Eddy Sango a joint à Dakar son directeur régional adjoint en charge de l'Afrique de l'Ouest et centrale, Steve Coburn.
Il n'y a aucune base légale, soit dans la constitution de la Guinée équatoriale, soit dans la loi internationale des droits humains, de les arrêter et de les détenir pendant 2 semaines sans être inculpés et sans avoir un accès adéquat à leur avocat. Donc c'est assez clair qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, ils doivent les libérer immédiatement.
Qui réclamait ces personnes? Qu'est-ce qu'ils disaient dans les tracts qu'ils distribuaient?
En fait, c'est qu'une personne qui était en train de manifester et distribuer les tracts. Les autres 2 étaient arrêtés quand ils avaient soit une personne qui avait une tracte avec lui et l'autre quand il avait demandé les raisons pour l'arrestation de Célestine Okenvé. Mais ce que Célestine Okenvé distribuait, c'est les tracts qui se plaignaient que la CAN était un gaspillage d'argent pour l'image du président. Et tout ça, c'est une activiste, une militante, c'est aussi une opposante politique qui ne voulait pas que la CAN soit tenue en Guinée équatoriale. On peut être d'accord avec ça ou ne pas être d'accord avec ça, mais l'essentiel, c'est qu'il a le droit de s'exprimer et il ne devrait pas être détenu pour ses actions.
Pour vous, l'organisation d'activités sportives doit aller avec le respect des libertés d'expression, des presses et de la démocratie?
C'est clair que tout pays doit respecter les droits humains, y compris la Guinée équatoriale. Je pense que l'opportunité qu'on avait avec les CAN, c'est qu'on avait l'espoir que la Guinée équatoriale aurait pu montrer un meilleur visage au monde. Parce que c'est un pays avec une très mauvaise réputation à propos des droits humains. C'est un pays où les opposants politiques sont détenus. C'est un pays où la pratique de torture est répandue. C'est un pays où il y a peu de liberté d'expression. Donc on espérait que la CAN serait une opportunité d'améliorer cette situation. Mais en fait, c'est une occasion ratée.
Steve Coburn d'Amnesty International était joint à Dakar. Incertitude au sujet des élections générales nigérianes du 14 février. À 2 semaines du scrutin, au moins 25 millions de cartes d'électeurs attendent toujours d'être distribuées, soit environ 40% de l'électorat. La commission électorale assure malgré tout que ces défis n'entraîneront pas un report des élections. Voici un reportage de notre envoyé spécial Anne Louk, interprété par Chérubin Dorsil.
Confusion dans les procédures, retard dans l'acheminement des millions de cartes par l'imprimeur, autant de choses qui font que de nombreux électeurs repartent souvent les mains vides des centres de distribution de cartes. L'électeur Folabi Balogun a vécu l'expérience récemment à Lagos. Il est arrivé à un centre de distribution juste au moment où les agents électoraux déchargeaient les boîtes de cartes d'électeurs d'un véhicule. Il était environ 12h30, soit 4 heures après l'heure fixée pour le démarrage de l'opération. C'est la 3e fois que Folabi Balogun tentait d'entrer en possession de sa carte. Je le fais juste par devoir, car je ne pense pas que quiconque voudrait endurer un tel stress. La plupart des gens pourraient simplement décider que cela n'en vaut pas la peine. Le centre de distribution est situé dans un centre communautaire, mais la dame en charge des lieux a choisi aujourd'hui de s'installer à l'ombre d'un arbre pour, a-t-elle dit, se protéger du soleil. Le soulagement de Balogun est de courte durée. Ce n'est pas son bureau de vote. La dame l'oriente vers une école toute proche où se trouve un autre centre de distribution. Il la remercie. Tout le monde n'est pas aussi courtois, fait remarquer la jante.
Les gens m'insultent et disent que la commission électorale ne sait pas ce qu'elle fait. Ils sont confus, je les comprends. Je n'essaie pas de justifier les choses. En fait, je ne suis pas contente quand je cherche et ne vois pas leur carte. Je la comprends.
Après 20 minutes de patiente recherche et quelques appels téléphoniques, Folabi Balogun arrive à l'école où il doit retirer sa carte. Pour son malheur, il a égaré la carte temporaire de 2011. Contrairement au précédent centre, celui-ci ne dispose pas de listes électorales. L'agent a disposé 41 sacs devant lui, un pour chaque bureau de vote et contenant jusqu'à 500 cartes. Il demande le code numérique de la carte temporaire que Balogun a égaré. Après quelques minutes d'un dialogue de sourds, Folabi Balogun quitte les lieux sans carte électorale et dépité. Un autre homme s'approche et présente sa carte temporaire. L'agent électoral en vérifie le numéro.
Okay, you register, you didn't register here. You registered at Chitogunlano.
Vous ne vous êtes pas inscrit ici, dit l'agent, en expliquant à l'homme où il doit aller. Et ce dernier lui rétorque qu'il a déjà été à cet autre centre de distribution. Des millions d'électeurs nigériens continuent d'effectuer ce parcours du combattant sans assurance qu'ils recevront leur carte d'électeur avant le 14 février.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
L'économie guinéenne a été frappée de plein fouet par l'épidémie d'Ebola. Mais selon l'ancien Premier ministre Sélou d'Alain Diallo, Ebola n'est pas le seul responsable de la faible croissance en Guinée. Le président de l'UFDG et candidat malheureux à l'élection présidentielle était dans nos studios à Washington. Nicolas Pineau lui a tendu le micro.
Mais d'abord, il faut parler de 2013 avant Ebola. En 2013, l'économie guinéenne n'a pas cru. 2,3% de croissance, c'était trop faible. Comment expliquer ce taux de croissance de 2,3% alors que la Côte d'Ivoire à côté a fait 9%, la Sierra Leone 14,5%, le Libéria 7%, alors que c'est des pays moins nantis que la Guinée en potentialité économique. Il faut ici trouver l'explication dans la qualité des politiques qui ont été menées par le gouvernement d'Alpha Condé, qui a découragé les investisseurs et qui a empêché donc la mise en œuvre de beaucoup de projets importants dans le pays, et les gens n'ont pas investi parce qu'ils avaient peur, parce qu'il n'y avait pas de visibilité, parce que le cadre juridique et réglementaire n'était pas clair, et c'est par là qu'il faut expliquer la crise. Maintenant, bien entendu, Ebola a aggravé cette crise, si bien que pour 2014, la croissance sera nulle et elle pourrait être négative en 2015.
Pensez-vous que l'on votera, que ce soit pour les élections locales ou le scrutin présidentiel cette année?
Je pense qu'il est souhaitable que les votes aient lieu. La communauté internationale s'est déjà prononcée. On ne souhaite pas que les élections soient reportées à cause d'Ebola. Le Libéria a déjà tenu ses élections sénatoriales. Ça s'est très bien passé malgré la présence de l'épidémie Ebola. Je pense que la Guinée doit pouvoir tenir ses élections locales et ensuite l'élection présidentielle. Mais à cet égard, il faut noter l'absence de volonté politique de le faire parce que le gouvernement n'a pas intérêt à organiser ses élections locales dans la mesure où il compte s'appuyer sur les élus locaux qui sont actuellement tous nommés par le pouvoir pour justement mettre en œuvre sa fraude pour la réélection de M. Alpha Condé.
Comment comptez-vous faire pour faire partir Alpha Condé?
Écoutez, Alpha Condé a déjà prouvé son incapacité à assumer cette haute fonction présidentielle dans notre pays. Ensuite, il n'y a pas de résultat. Il y a moins de sécurité, il y a moins d'électricité, moins d'eau courante. Les gens souffrent énormément. Notre défi, c'est de faire en sorte que les élections soient transparentes. Et en ce moment, il n'y a aucun problème pour dégager Alpha Condé.
Et sous quelle forme, au-delà des élections, comptez-vous protester contre le pouvoir actuel?
Les Guinéens choisissent effectivement, les responsables au niveau de la base.
Mais appeler à des marches, même pacifiques, n'est-ce pas jouer avec le feu, compte tenu évidemment des violences qui émaillent souvent des dizaines de morts dans les rangs de l'opposition depuis 2011?
Oui, c'est un coût très élevé que nous payons pour justement obliger Alpha Condé à réunir les conditions d'un scrutin transparent, mais on ne peut pas renoncer. J'espère que l'armée guinéenne, les forces de défense et de sécurité arrêteront désormais de réprimer dans le sens ces manifestations pacifiques autorisées par la loi fondamentale.
C'était l'économiste Sélou d'Alain Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Bénin, le réseau des ONG pour la promotion de la femme, le Rifonga Bénin, multiplie les initiatives pour convaincre les politiques de bien positionner les femmes sur leur liste électorale. Voici un reportage de Peggy Ludovic Dagba à Cotonou.
L'augmentation du nombre des femmes dans les instances de prise de décision demeure la grande préoccupation de l'heure du Rifonga Bénin, le réseau des ONG œuvrant dans le domaine de la promotion de la femme. À travers le projet Zinzin qui entre dans sa deuxième phase, le réseau entend intensifier le plaidoyer à l'endroit des dirigeants et responsables de partis politiques pour obtenir un meilleur positionnement des femmes sur leur liste lors des prochaines élections communales et municipales. Et selon Madame Véronique Fossou, membre fondateur du réseau, ces acteurs politiques sont réceptifs au message et promettent le traduire dans les faits. Aussi, les femmes qui d'ordinaire étaient réticentes commencent à s'intéresser aux jeux politiques. Véronique Fossou.
Au départ, les réactions des femmes étaient différentes. Aujourd'hui, les réactions sont tout autres. De plus en plus, les femmes, depuis les quartiers et les villages, militent et elles sont formées, elles sont intéressées désormais à la chose publique. Donc, elles sont aptes à travailler pour leur village, leur commune, leur quartier. Si on les choisit, ce serait une bonne chose pour que le développement démarre. Parce que quand les femmes restent à l'écart, ce n'est pas bon. Le développement n'est pas assuré. Donc nous avons confiance en l'avenir.
Guy Constant Ehoumi, journaliste, a été convié par Ifonga Bénin à former des journalistes sur leur rôle dans le suivi des femmes candidates dans leur campagne électorale pour une couverture médiatique réussie. Avec lui, voici le rôle attendu des journalistes pour l'atteinte des objectifs du projet.
La femme pense que la gestion de la cité revient aux hommes. Il faut aller les sensibiliser aujourd'hui pour dire que ce n'est pas ça. Et maintenant, conscientiser les hommes pour leur dire que faut pas penser que les femmes doivent jouer toujours le second rôle, c'est-à-dire rester à la maison pour procréer, donner à manger, mais que les femmes aussi peuvent autant gérer que les hommes. Et qui plus est, même, les femmes ont un peu plus de pudeur en matière de gestion pour une bonne gouvernance. Amener les citoyens à comprendre cela, mais cette dynamique-là ne doit pas être une dynamique d'opposition hommes et femmes, mais de complémentarité. Les journalistes doivent se mettre dans cette position-là pour amener tous les citoyens du pays à contribuer de façon, je ne vais pas dire égale, mais dans une complémentarité pour qu'on sache que la femme a un rôle à jouer dans la cité et qu'il faut l'impliquer désormais totalement.
30% de femmes élues à la fin des élections communales et municipales de 2015, ceci n'est pas une vue de l'esprit selon les responsables de Rifonga Bénin. Peggy Ludovic Dagbar, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
La Minute Éco, c'est un regard sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour à tous.
Parlons transport pour commencer. La Chine et l'Union africaine veulent relier les métropoles du continent.
Oui, selon Jeune Afrique, l'Union africaine et la Chine ont signé un protocole d'accord pour un gigantesque projet d'infrastructure destiné à relier les capitales africaines au moyen d'autoroutes, de trains à grande vitesse et de liaisons aériennes. L'accord signé le 27 janvier à Addis Abeba en Éthiopie est considéré par les deux parties comme l'accord du siècle.
Emirates Sky Cargo, la division fret d'Emirates, se renforce en Afrique.
Oui, la compagnie a introduit un service de cargo hebdomadaire vers le Burkina Faso. Ouagadougou est donc devenue la 27e destination en Afrique du réseau Emirates Sky Cargo. La compagnie va desservir le Burkina Faso à partir de Dubaï chaque mardi et compte, en fonction de la demande, multiplier ses vols. Emirates Sky Cargo utilisera un avion cargo Boeing 777 capable de transporter plus de 100 tonnes de fret.
Et la Banque centrale sud-africaine a une nouvelle fois réduit ses prévisions de croissance.
Selon l'AFP, la banque met en cause les désastreuses conséquences pour l'économie des délestages électriques que connaît le pays. Après une modeste croissance de 1,4% en 2014, la Banque de réserve d'Afrique du Sud ne compte plus cette année que sur une croissance de 2,2% contre 2,5% attendu précédemment. Pour 2016, la prévision de croissance a été revue à 2,4% contre 2,9%.
Merci Bagassi Koura pour la Minute Éco.
Chers auditeurs de VOA Afrique, restez branchés entre 20h et 21h, temps universel, dans RM Show. Nous allons décoller avec de la bonne musique des îles. Soca, reggae, ragamuffin, reggaeton, zouk love, aïe aïe aïe. Nous aurons comme invité spécial l'artiste congolais Fabregas, a.k.a. Yamado. Les amis, n'oubliez pas aussi que nous parlons démocratie cette semaine. Continuez à nous envoyer vos commentaires sur notre groupe Facebook. Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Appelez-nous aujourd'hui entre 20h et 21h temps universel au 001 202 619 3140. Je répète, 001 202 619 3140. Je ne peux que vous dire, hey, peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, John Ellison. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon vendredi à toutes et à tous et surtout, passez un bon week-end.